Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à accueillir Laurent Ciorac, que je salue tout de suite. Bonjour Laurent.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Eh bien, c'est très volontiers. Alors Laurent, on le connaît bien ici à Nîmes, d'abord parce que ce quartier d'hiver et d'été, c'est Arles, donc c'est tout près d'ici, et qui nous a fait plusieurs fois l'honneur de venir, notamment dernièrement, la dernière session du Forum du Livre Péplum à Nîmes. Donc on le connaît bien et on apprécie beaucoup son travail, ce dont on va parler aujourd'hui, en égrenant le passé, mais en se projetant peut-être sur le futur. Alors d'abord, un petit mot, Laurent, de votre cursus, parce que si je regarde, alors Arles, c'est votre quartier.
Oui, je suis né à Arles et je vis à Arles, effectivement.
Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer que Ciorac, avec le hac qui parle de à quoi, ça a quelques consonances latines ou pas du tout?
Alors, j'en ai aucune idée. c'est un lieu-dit dans le sud-ouest, par contre. Hein, ça, oui, mais après, est-ce que ça a une racine latine? Je ne crois pas. Mais bon,
bon,
je n'ai pas fouillé, je vous avoue.
Et alors donc, les études que vous avez suivies, c'est Marseille. Vous avez une formation de chimiste, hein, si je crois mes notes.
Voilà, une maîtrise de chimie physique. Hein.
Et donc, tout ça vous a directement mené aux Beaux-Arts et un travail au dessin que vous avez attaqué en autodidacte.
Voilà. Alors, j'ai toujours dessiné, hein, mais c'est vrai que ça a été l'occasion, après ma maîtrise, de se lancer là-dedans en se disant « j'ai qu'une vie, donc ça serait dommage d'y passer à côté ». Je m'éclatais vraiment en chimie, ça, c'était pas un souci, mais en parallèle de ça, avec des amis, on avait monté un petit fanzine. Et j'avais toujours eu cette envie de dessiner. Je dessinais dans le fanzine, forcément. Et ça a été l'occasion, voilà, de prendre deux petites années où j'ai pas forcément appris le dessin, on va dire, mais ça m'a remotivé, on va dire. Ça m'a permis de baigner un petit peu dans l'art, au sens large du terme, et de toucher à pas mal de choses un peu différentes de ce que j'avais touché jusqu'à maintenant.
Et art et Arles, ça commence de la même façon. Vous avez été attiré par le festival Arles fait ses bulles. Et
oui.
C'est là que vous avez peut-être eu la révélation.
Alors, plus que ça, puisque Arles fait ses bulles, je fais partie, je suis co-créateur de cet événement. Donc, j'étais le trésorier de l'association qui avait créé cet événement à l'époque. Donc, oui, moi j'étais là-dedans. Et puis surtout, quand le festival a été créé, Arles fait ses bulles, j'étais déjà auteur. J'avais déjà publié mes deux premiers albums, en fait.
Les prophéties d'Elwen, c'est ça?
Exactement, les prophéties d'Halloween. Ouais.
D'accord. Alors vous avez donc fait une rencontre importante, celle des éditions Claire de Lune, et donc a commencé votre carrière de dessinateur professionnel.
Tout à fait.
Alors ensuite, c'est les éditions Soleil. Je parle d'édition parce que ça a une importance, puisque aujourd'hui, dans votre travail, vous êtes partie prenante d'une maison d'édition qui s'appelle
Sans Bulles.
Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot sur ces Sans Bulles?
Alors, Sans Bulles, finalement, était assez lié à Arélaté, puisque après avoir fini de travailler avec Claire de Lune, je suis passé effectivement aux éditions Soleil, et j'avais proposé à cette époque, on va dire, le projet d'Arélaté. Je ne l'ai pas proposé qu'à Soleil, d'ailleurs, hein, je l'ai proposé à pas mal d'éditeurs, et j'ai eu une fin de non-recevoir, on va dire, sur à peu près la globalité de tous les auteurs. Donc je me suis quand même, moi j'y tenais à ce projet, donc j'ai quand même continué. Au départ, on a publié, on aurait dû le signer en fait chez Actes Sud, puis ça s'est pas fait, puisque moi je travaille un concept où j'apprécie d'être payé quand même pour le travail que je fais, alors
oui, ça
que
semble normal,
finalement
hein.
c'était pas forcément le choix que souhaitait faire, on va dire, Actes Sud. Donc c'était très dommage, hein, puisque un auteur arlésien avec un archéologue presque arlésien, on va dire, mais qui travaille sur Arles, et un éditeur arlésien, ça aurait pu matcher, on va dire, mais bon, ça s'est pas fait. Et donc, au dernier moment, on s'est retourné vers un petit éditeur, une petite maison associative qui s'appelait ID+. Malgré tout, c'est quand même moi qui ai financé le projet de A à Z, hein, puisque j'ai assumé la partie création et également la partie impression et édition, on va dire. Finalement, ID+ a été quelque part plus un prête-nom. J'avais besoin des numéros ISBN pour pouvoir le sortir et je n'avais pas le temps de monter une structure associative à l'époque, de demander ces numéros d'ISBN et de sortir l'album, j'allais dire, dans les délais, puisque on avait prévu de le sortir en début juillet, je crois, 2009 à l'époque. Et donc voilà, c'était la solution la plus facile. Je connaissais déjà un peu ID+, donc voilà, ça s'est fait assez facilement. Après ça, j'ai récupéré mes droits quand même. Enfin, je les avais pas laissés. Enfin, j'ai publié les trois premiers tomes version sépia chez un autre petit éditeur qui s'appelait Cléopas, mais qui a fait faillite au moment de la sortie du tome 3, malheureusement. Alors, c'était pas notre faute puisque la série avait plutôt eu un très très bon accueil puisque les deux premiers tomes avaient dépassé les 5000 exemplaires chacun. Donc, c'était déjà un petit démarrage plutôt sympathique chez un très petit éditeur. Donc ça annonçait de belles choses. Et au moment de la sortie du tome 3, en fait, il a fait faillite parce qu'il a voulu grossir trop vite, on va dire. Et bah, il a explosé en cours de route. Donc à partir de là, on s'est dit, on refait un tour de table avec les éditeurs. On a été assez avancé avec les éditions Glénat, mais eux aussi souhaitent publier des bouquins sans forcément les rémunérer à leur juste prix. Donc à partir de là, moi, j'ai dit, on arrête tout. Ça faisait des années, en fait, depuis quasiment ma rencontre avec Pierre Léoni et les éditions Clair de Lune, que je souhaitais m'auto-éditer, puisque, en fait, avec Clair de Lune, finalement, il a monté sa maison d'édition en parallèle de moi qui me montais en tant qu'auteur, on va dire,
Oui.
qui créait ça. Donc, en fait, j'avais quand même les mains dans le cambouis, je posais pas mal de questions, j'étais assez au fait de comment fonctionnait l'édition au sens large du terme. Donc, en fait, naturellement, à un moment, j'en ai eu un petit peu assez. De passer de l'un à l'autre, etc., avec des échecs, j'allais dire, liés bah, aux faillites, on va dire, des éditeurs. Voilà. Et donc j'ai monté ma propre structure, et quelque part, c'est pour le mieux. Et cette propre structure, donc c'est une association qui s'appelle Sambule. Alors, moi, j'allais dire, je la gère au quotidien, mais je ne fais pas partie du bureau, en fait, hein, ce qui m'a permis à l'époque d'avoir un contrat d'édition classique avec cette structure. Structure-là,
Oui,
en
voilà, en
fait.
ne mélangeant pas tout, c'est toujours mieux.
Exactement.
Et alors, la rencontre avec Alain Genot, ça a été aussi quelque chose de fabuleux et qui contribue à la réussite de cette série complète dont nous allons parler en 9 tomes, appelée, avec un nom formidable, Arrélaté. Alors, Alain
Voilà.
Genot, qui est-il et comment avez-vous travaillé avec lui?
Alors, Alain Genot, alors moi, au départ, je l'ai rencontré en tant qu'auteur, puisqu'il donnait un coup de main à l'époque, alors c'était autour de 2008, peut-être un peu avant même, 2006, je pense, 2005-2006. Il donnait un coup de main à un libraire sur un événement, Provence Prestige. Parce qu'à l'époque, en fait, lui, il n'était que vacataire, en fait, au musée. Donc, il effectuait des petits contrats. Bah, il faisait des petits boulots à côté, etc., quoi.
Parce que lui, de
Et
base, c'est un
donc,
archéologue, hein, c'est ça.
pardon?
Lui, c'est un archéologue au départ, hein.
Voilà, mais au départ, archéologue de formation, mais pas encore titularisé au musée. Et donc, en fait, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Lui, depuis, a été titularisé depuis de nombreuses années maintenant et tout. Et c'est vrai qu'on a sympathisé, pas forcément au départ pour déboucher sur un boulot, on va dire, sur du travail à quatre mains sur cette série-là. Mais voilà, on a bien sympathisé. Et puis, au bout d'un moment, en parlant et tout, on s'est dit, pourquoi pas faire un album autour de l'Antiquité romaine. Moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça, on va dire, même si jusqu'à maintenant, j'avais eu plutôt tendance à travailler sur des albums
Sur
d'heroic
les,
fantasy,
oui, et
et
sur
pas
les
forcément.
Vikings, sur les,
Voilà.
voilà, c'était plutôt.
Alors, j'avais commencé effectivement à travailler sur la fin de ma collaboration avec Soleil sur des albums plus historiques, puisque j'ai fait un diptyque qui s'appelait Viking et un autre qui s'appelait Éric le Rouge. Mais effectivement, et encore que j'ai fait en parallèle avec Arrélaté pour certains. Et lui, il y avait une vraie frustration de par sa formation et de par son métier, de ne pas retrouver finalement son métier dans les albums qu'il lisait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde l'Antiquité romaine, pour rester sur le segment qu'on a choisi nous, et son métier, puisque lui, il est archéologue spécialisé maintenant sur cette période-là, ben en fait, quand il va lire Murena, quand il va lire Alix, c'est toujours les grands de cette époque, c'est toujours j'allais dire les légionnaires, c'est toujours les orgies. En fait, on tourne toujours un petit peu sur les mêmes thématiques, avec des adaptations souvent d'auteurs antiques aussi. Donc, c'est vrai que quelque part, ça tourne un petit peu en rond. Alors, il y a des choses qui sont vraiment très très bien, mais quelque part, quand on a commencé à vraiment se projeter dans un éventuel projet, on s'est dit, mais c'est dommage de bah, finalement de repartir sur quelque chose qui pourrait ressembler à du Murena ou du Alix, alors que finalement, bah, ils font déjà très bien la chose, donc il faudrait qu'on prenne le contre-pied un peu de ça et notamment essayer de revenir sur un peu son quotidien, lui, en tant que fouilleur archéologue, en fait. C'est des choses qu'il ne retrouve pas forcément dans les albums des autres. Et nous, en partant là-dessus, en fait, on a également quelque part imposer le fait d'avoir systématiquement un carnet pédagogique,
Voilà,
en
oui.
plus d'un récit très, j'allais dire, un récit classique de BD, j'allais dire, hein, voilà. On rajoutait systématiquement 8 à 14 pages, on va dire, de carnet pédagogique qui nous permettent, en fait, de revenir sur des petites séquences, sur des objets qu'on a pu introduire, sur des faits dont on parle, et qui sont directement issus, en fait, de fouilles archéologiques, et le carnet pédagogique nous permettait de les mettre en avant, en fait.
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une de vos marques de fabrique, c'est-à-dire le va-et-vient permanent entre la science, l'archéologie et la fiction, avec la volonté de s'appuyer sur des objets archéologiques réels. Et aussi, je trouve, votre deuxième caractéristique en dehors du talent de dessinateur et de scénariste, eh bien, c'est de travailler en équipe, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous aurons l'occasion, dans la deuxième partie de l'émission, de voir que vous avez aussi fait un travail formidable avec un autre archéologue très connu, David Jaoui. Mais nous allons marquer une petite pause musicale avec un hymne à Apollon. Et nous reviendrons ensuite à parler des 9 tomes qui composent cette saga Arelaté. En notifiant tout de suite que vous êtes passé d'un format noir et blanc à un mélange astucieux entre le noir et blanc, le sépia, la couleur. On
Tout
en
à fait.
reparlera dans une petite minute, le temps d'écouter l'hymne à Apollon. À tout de suite.
Dieu dont la lyre est d'or, ô fils du grand Zeus, sur le sommet de ces monts neigeux, toi qui répands sur tous les mortels d'immortels oracles, je dirai comment tu conquis le trépied fatidique gardé par le dragon. Quand de tes traits tu mis en fuite le monstre affreux au repli tortueux.
Alors voici la deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée à Laurent Sirac, Arelaté et Proculus dont nous ne tarderons pas à parler. Donc Laurent nous a expliqué comment il a cheminé dans tous ses projets et comment il a su, en travaillant en collaboration avec, pour l'instant, Alain Génot, puisque nous parlons d'abord d'Arelaté, composer ses 9 tomes intitulés Vitalis, Auctoratus, Atticus, Neiko, Hortensis, Carmilia, Glanum, Sur la mer violette et le tout dernier, Roma. Alors, ces aventures sont centrées autour d'un personnage principal, mais il y a beaucoup de personnages. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est ce personnage et le présenter rapidement?
Alors, Vitalis, initialement, c'est un tailleur de pierre sur le chantier de construction de l'amphithéâtre d'Arles, et un tailleur de pierre pauvre, on va dire, hein, qui a quelques petits problèmes conjugaux et surtout des gros problèmes de jeu, on va dire, et de boisson. Donc, on part sur quelque chose d'assez universel, on va dire, hein, un jeune qui boit, qui joue, qui est endetté, voilà. Sa femme est enceinte, et donc il va se retrouver très rapidement à devoir beaucoup d'argent à un riche citoyen dont il est le client, donc ça nous permet d'apporter le clientélisme, et on va voir en lisant le premier triptyque, donc les trois premiers tomes, comment il va solutionner ces petits problèmes, et bah, finalement, ça nous permet aussi d'aborder notamment la gladiature de manière beaucoup plus réaliste et moins fantasmée que ce qu'on avait jusqu'à maintenant l'habitude de voir. Donc ce personnage, finalement, qui apparaît de manière très antipathique sur les premières pages, hein, je pense, va devenir attachant au fur et à mesure de la série, parce que justement, je vais quelque part le pousser un petit peu dans ses travers pour ensuite le détruire et le reconstruire et en faire quelque part un homme nouveau, on va dire, neuf. Non neuf, on va dire, mais avec finalement une épaisseur, on va dire, scénaristique.
Alors, vous l'avez bien dit, ce sont des problèmes personnels liés à un personnage de son époque, mais comme on pourrait aujourd'hui avoir le même type de problème. Et vous l'ancrez dans une thématique à chaque fois intéressante. Donc là, ici, vous avez précisé la gladiature, mais nous sommes amenés à voyager pas mal dans cette série.
Tout à fait. On va faire donc, bon, essentiellement à Arles, effectivement, mais on va aller jusqu'à Lyon, on va aller à Glanum, comme certains noms d'albums l'indiquent, sur la mer Violette, donc la Méditerranée, pour aller jusqu'à Rome. Donc au départ, on s'est quand même focalisé sur Arles, et puis petit à petit, via le truchement, bah, de son nouveau métier, quelque part, on est sorti de la ville. Parce que notamment en tant que scénariste, je voulais pas que ça soit finalement de manière artificielle qu'on aille à droite ou à gauche, mais qu'il y ait chaque fois une raison plausible et valable et liée à nos personnages. C'est-à-dire, j'allais pas le faire partir à Glanum juste parce que Glanum est à 35 km d'Arles, que c'est un magnifique lieu, mais parce que s'il y va, c'est qu'à un moment il a été blessé à la jambe et qu'il y a une source aux vertus prétendument curatives à Glanum, par exemple. Donc chaque fois, il y a une vraie raison, on va dire, objective et réelle. Et si par exemple on va jusqu'à Rome avec ce dernier album, c'est parce que a priori on a découvert au Liban une plaque un édit impérial qui dit que tout ce qui a été pesé sur le port de Rome ne doit pas être pesé dans les autres ports de l'Empire.
Donc
Je
c'est une
fais
sorte de
simple, mais c'est pas
monopole en
tout à fait.
fait.
Pardon?
C'est un monopole.
Alors, je ne sais pas, non, ce n'est pas forcément un monopole, c'est juste, oui, si, quelque part, oui, puisque n'y a pas besoin de repeser, en fait. Donc,
Oui.
mais a priori, ça veut dire qu'aussi, il y a eu des gens qui se sont plaints que ce qui arrivait dans leur port n'était pas les quantités commandées, et ce qui sous-tend finalement qu'une délégation des notes arlésiens s'est rendue à Rome pour aller plaider sa cause, en fait.
Oui.
Donc, voilà, chaque fois, on a essayé. Quand nos personnages vont sortir d'Arles et vont aller quelque part, c'est parce qu'il y a une raison archéologique, on va dire, à ça.
Alors, on avait eu l'occasion, parce que je vous ai déjà reçu quelques fois pour
À
l'apparition
fait.
des différents albums, d'égrener des personnages. On peut pas parler de tout aujourd'hui, mais il y a Neiko, un marin. C'est justement parce qu'il y a ce marin que les voyages arrivent. Et Kaeki, il y a sa compagne. Il y a Witalis et Alfia. Il y a Tilius et Delia. Donc, chaque fois, on voit intervenir des gens variés et des femmes aussi.
Bah, tout à fait. Bah, après, alors c'est vrai que dans l'Antiquité, la femme appartient à l'homme. Enfin, c'est très particulier, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'effectivement elles doivent être se cantonner juste à la cuisine, on va dire. Bien au contraire, puisqu'on sait que une femme de légionnaire, bah, c'est elle qui fait tourner la maison. C'est elle qui s'occupe qui endosse finalement le rôle du père de famille, en fait, hein, et qui au jour le jour va faire en sorte que la famille tienne, en fait. Donc oui, elles ont un rôle assez prépondérant dans la série. Et c'est vrai que là, par exemple, vous avez cité essentiellement, j'allais dire, les gentils de l'histoire,
Oui.
mais à côté de ça, on a notamment un personnage que vous avez cité tout à l'heure, Hortensis, qui est un esclave, mais qui a un rôle très très important dans la série et qui me permet, en fait, à l'instar de Vitalis, qui va lui aussi devenir esclave, qui me permet d'explorer, en fait, les différentes strates sociologiques de cette société romaine.
Oui, et il est un petit peu brutal, cet Hortensis, hein.
On va dire que oui,
Il aime la
effectivement.
castagne, apparemment.
Ouais, tout à fait.
Alors, on a évoqué quelques thématiques vraiment originales, mais puisqu'il est question de voyage, de port, alors il y a port fluvial, port maritime. Effectivement, vous intéressez beaucoup aux naviculaires et à tous les trafics qui ont lieu dans l'Antiquité autour du commerce.
Tout à fait. Bah, Arles est un point de passage, en fait, hein, que ce soit maritime, on va dire, puisque c'est un point de rupture de charge pour les bateaux maritimes et fluviaux, en fait. Et également, bah, c'est sur la route, j'allais dire, Italie-Espagne. Donc c'est vrai qu'on est à un croisement, on va dire, commercial qui est très important, d'où sa situation, on va dire, à Arles, et le fait qu'elle existe depuis 2700 ans, on va dire. Donc oui, c'est le commerce est prépondérant sur cette cité.
Alors, on ne va pas dévoiler parce que le tome 9 est tout récent, Roma. On va dire simplement que là, forcément, puisque c'est la fin, toutes les ficelles se dénouent et on arrive à la résolution d'une enquête, parce qu'il y a une enquête aussi. Mais du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse le lien avec un autre travail que vous avez accompli avec David Jaoui. Un très, très beau travail. Moi, j'avais adoré le roman archéologique qui, d'ailleurs, a reçu un prix que David avait d'abord écrit. Puis ensuite, vous avez collaboré à une BD que je trouve magnifique et dont j'aimerais que vous nous parliez. Alors déjà, comment s'appelle-t-elle?
Alors c'est là oh j'ai perdu le titre. L'histoire possible de Valerius Proculus, une enquête archéologique.
Voilà.
Alors en fait, initialement, ce n'est pas une BD. En fait, c'est un catalogue d'expos, puisque l'intégralité des 26 pages ont été réalisées pour monter une exposition qui a eu lieu en fin 2023 à la galerie du département du CG13 à Aix-en-Provence. Et en fait, le but, c'était effectivement d'adapter une très petite partie du roman Enquête archéologique de David Jaoui, hein, paru aux éditions Actes Sud, et
Et
de
je rappelle
proposer en
qu'il a eu
fait
donc un
une.
prix de roman archéologique, hein.
Oui, à Narbonne,
Oui.
effectivement. Donc en fait, ces pages ont été réalisées. En fait, le but, c'était d'amener en fait les gens à redécouvrir un petit peu l'archéologie et les objets archéologiques d'une manière un petit peu différente et une manière peut-être un peu plus ludique. Donc en fait les pages ont été réalisées pour moi au format classique, on va dire, et l'objectif c'était pour partie de les agrandir au format 2,50 m par 1,80 m, ce qui permettait en fait aux objets que j'avais dessinés sur ces pages d'être à l'échelle 1. Et donc, moi, je les ai effacés et on les a remplacés. On a remplacé le dessin de l'objet par le vrai objet protégé par une vitrine qui était elle-même, à la limite, encastrée dans la page de bande dessinée, comme un
D'accord.
trompe-l'œil, en fait. Donc, c'était du plus bel effet, on va dire. Donc, il y avait 11 pages qui étaient comme ça, qui représentent les 11 objets qui avaient été sélectionnés finalement pour cette exposition. Et le reste des pages était présenté, et même la totalité des pages, elle était présentée au format A1, si je ne dis pas de bêtises, en version couleur en fait. Donc ce qui permettait aux gens de pouvoir lire la BD de manière classique, et en même temps de s'arrêter sur les agrandissements de ces planches BD, et de voir l'objet réel en fait, tout simplement.
Alors, ce livre, cet album se présente sous forme de trois histoires en réalité, qui se situent entre Rome, Arles et Cadix. Bien évidemment, on va pas tout raconter. D'ailleurs, il nous reste tellement peu de temps que ce serait absolument impossible. Mais pourquoi trois histoires ? Alors, en gros, c'est quoi ces trois histoires, Laurent ?
Alors, ce sont trois petites scénettes qui permettent en fait de mettre effectivement en valeur ces objets et d'expliquer en fait à quoi ils servaient. Donc, ce sont souvent des contenants, hein, des boîtes de conserve de l'époque, des amphores, et on va expliquer comment on les conditionnait, quels étaient les produits qui étaient à l'intérieur et comment ces produits étaient préparés, tout simplement en fait.
Alors, pourquoi ça s'appelle Proculus? Il faut quand même le rappeler, parce que ce personnage compte. Tout à l'heure, on a parlé d'exposition, mais David Jaoui avait aussi réalisé à Marseille une exposition qui s'appelait « On n'a rien inventé », qui partait, elle aussi, d'objets archéologiques importants
Voilà.
qu'on essayait de déchiffrer.
Tout à fait, de boîtes de conserve en fait. Hein, il faisait le parallèle entre les boîtes de conserve qu'on a actuellement et les amphores, notamment les contenants de l'époque. Et par exemple, bah, ce fameux Valerius Proculus, c'est un des noms qu'il a pu retrouver sur un col d'amphore en fait, lors de ses recherches.
Alors voilà, on est bien d'accord, on raconte des choses, mais on part de la réalité, on part de noms qui ont accroché sur les parois des amphores, on part de la traçabilité des amphores desquels vous parlez remarquablement bien, et on parle du contenu de ces amphores, du garum.
Notamment, et du vin, des conserves de poissons, etc. Donc tout est basé effectivement sur des découvertes archéologiques qu'on remet en situation, comme on avait pu le faire avec Arelaté. Mais là, pour le coup, on pousse encore un petit peu le curseur un peu plus loin, en essayant d'être... En fait, là, c'est réellement le propos. Autant Arelaté, les objets archéologiques nous permettaient simplement d'ancrer notre récit dans cette société romaine du 1er siècle. Là, les objets sont vraiment le cœur de nos histoires. Et donc on va faire trois petites scénettes qui sont systématiquement entrecoupées par des carnets pédagogiques dans lesquels finalement David va revenir présenter le contexte de fouille de ces objets, les objets bien entendu, et le processus d'enquête finalement archéologique qu'il a dû mener à l'instar d'une enquête policière pour essayer d'identifier les contenus, mais également l'origine des contenants et à quoi ils servaient, parce que des fois, bah, c'est très parcellaire et c'est assez compliqué d'arriver à redonner vie à ces objets, effectivement.
Et alors là, comme moi j'ai la BD sous les yeux, je vois aussi quelques images remarquables où on voit David Jaoui mis en scène, s'interrogeant sur un mot latin qui est en abrégé, comme souvent sur ces étiquettes qui tracent le contenu de l'amphore et toutes les étapes du commerce. Et il se pose des questions. Donc on a sans arrêt entrelacé l'époque moderne avec l'enquête archéologique et l'époque ancienne qui nous a donné ces beaux objets.
Tout à fait. Tout à fait. Bah, en fait, il s'est mis en scène comme lorsqu'il a trouvé effectivement ces objets. Et en fait, ces images sont en général les dernières images du récit, alors que finalement, initialement, c'est les premières, ce sont les déclencheuses, on va dire, ces images des histoires qu'on va raconter et qui se sont passées 2000 ans plus tôt.
Alors moi, j'avais adoré le roman, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai adoré cet album parce que vraiment, pour les yeux, pour l'intellect, c'est extraordinaire. Je conseille à tout le monde d'aller rencontrer ce dénommé Proculus et les enquêtes archéologiques, donc Valerius Proculus, l'histoire possible de David Jaoui, Laurent Surac, et de se replonger dans la saga des 9 tomes d'Arelaté qui est aussi formidable. Merci Laurent, on n'a pas eu le temps de parler de votre futur, ce sera pour une autre fois.
Ça sera dans le futur. Merci, au
Au
revoir.
revoir.